Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Au cours de nos précédentes émissions, une dizaine déjà, retrouvées sur notre site internet www.radiograndciel.fr, nous avons abordé donc trois histoires, contes, mythes, textes fondateurs, à savoir le conte de Blanche-Neige, le mythe de Psyché et Eros et le récit de la Genèse. Et tout au long de ces trois récits, nous avons traqué l'idée de la beauté. Aujourd'hui, il est temps de nous attaquer plus ou moins frontalement à cette notion qui semble relativement insaisissable, celle de la beauté. Et pour commencer, docteur Dominique Desmichel, nous allons revenir sur le conte de Blanche-Neige et le premier élément de cette beauté, c'est la rivalité qu'il y a dans le conte de Blanche-Neige, comme dans beaucoup de contes, entre la belle-mère de Blanche-Neige et Blanche-Neige, cette rivalité sur la beauté,
oui,
au sujet de la beauté.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est d'ailleurs intéressant de noter que si on interroge quelqu'un au sujet du conte de Blanche-Neige, qu'est-ce qu'il va vous raconter ? Il va raconter qu'il y a une pauvre fille, voilà, qui s'appelait Blanche-Neige. Peut-être qu'elle était assez mignonne. Et puis, qu'il y avait une sorcière. Et puis, que la sorcière, c'était la marâtre, au fond, de Blanche-Neige. Mais je crois qu'il risque d'oublier que il va peut-être rajouter en plus, en effet, ce que vous dites, à savoir qu'il y a cette rivalité profonde entre la mère et la fille. Hein. Il faut se rappeler que la marâtre, ça concerne en fait la partie mauvaise de la mère, hein, de Blanche-Neige, et que ça peut représenter aussi la partie de l'image de la mère à l'intérieur de Blanche-Neige, hein, toujours ces différentes strates-là. Mais en fait, la beauté de ces deux femmes est souvent oubliée, ou peut-être banalisée ou négligée. Pourtant, la reine était très belle, c'est explicitement dit, en tout cas, et je crois que pour la deuxième, on dit que la deuxième femme était très belle, la première, ça semble aller de soi. Donc je crois que parler de la beauté de l'une, c'est parler de la beauté de l'autre, et je crois que le conte se nourrit de cette question de la beauté et de ses effets dans le lien, et comme vous le dites, à juste titre, dans cette question de la rivalité entre la mère et la fille. Et on a envie de se dire, qu'est-ce que vient faire la beauté quand la violence d'une mère se porte sur une fille ?
Alors effectivement, la beauté est au cœur de ce récit, il est au cœur également du récit de Psyché et Eros, quelque part, puisque c'est le point de départ des aventures de Psyché. Alors, docteur Dominique Desmichel, de quelle beauté parle-t-on ? Parce que cette rivalité, d'accord, mais la marâtre se regarde dans le miroir, demande si elle est la plus belle, et elle est une très belle femme.
Voilà.
Peut-on comparer les beautés ? Ça paraît déjà un véritable problème. Pourquoi un tel est plus belle qu'une autre ? Ou un tel est plus beau qu'un autre, d'ailleurs ?
C'est peut-être difficile de répondre à cette question. Pour moi, j'avais envie de le traiter en tant qu'archétype, je dirais, hein, c'est-à-dire la beauté, c'est quelque chose qui nous concerne. Chacun peut avoir cette définition de la beauté quand il a dit des choses comme ça, hein, les goûts et les couleurs, en gros, ça ne se discute pas, chacun a ses goûts, chacun a des couleurs préférées, voilà, que ce soit le gris ou que ce soit le blanc ou que ce soit n'importe quelle couleur. Je pense que la question de la beauté dans le monde, c'est une question probablement importante. Il y a cette phrase de Dostoïevski qui disait « la beauté sauvera le monde ». Et je crois qu'on sent bien intuitivement à l'intérieur de nous-mêmes la puissance d'une telle affirmation et en fait, au fond, le besoin d'y croire. Comme si cette beauté, on avait très envie de s'y accrocher.
Alors, justement, cette beauté dont parle Dostoïevski, ce n'est pas la beauté du miroir.
Non, ce n'est pas la beauté du miroir. On pourrait probablement penser que c'est la beauté du monde. La beauté du monde. Et d'ailleurs, à ce propos-là, François Cheng, dans un de ses livres, hein, qui s'appelle « Cinq méditations sur la beauté », dit « l'univers n'était pas obligé d'être beau ». Et je trouve que, moi, je me souviens très bien, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a beaucoup troublé. C'est vrai que devant un coucher de soleil, devant une nature, devant un lac dans une montagne, devant un paysage sauvage qui soit, je sais pas, d'Amérique tropicale ou d'autres choses, devant un site avec un site magique comme le Mont-Saint-Michel ou Machu Picchu ou des tas d'autres lieux comme ça, il y a une sorte de beauté qui nous fascine, qui nous touche, qui nous bouleverse.
Parce que le nœud du problème dans la rivalité entre Blanche-Neige et sa belle-mère n'est pas justement là. C'est-à-dire que sa belle-mère se trompe totalement de beauté, de définition de la beauté. Elle est à côté de la plaque en pensant que la beauté est, ne peut être qu'un reflet dans un miroir.
Je pense que le rapport que l'on a, nous, à la beauté, est fait d'un mélange à la fois de fascination et puis un petit peu d'effroi. Parce que la beauté, elle voile et elle dévoile en même temps. Il y a cette question du masque. Dans le masque, il y a deux faces. Il y a une face extérieure, c'est celle que les gens voient, et une face intérieure qui dit quelque chose de celui qui le porte. Hein, le masque révèle plus qu'il ne cache, dit Lévi-Strauss. Donc, par rapport à votre question, il me semble qu'il y a l'idée que la beauté est à la fois réelle, certes parfois extrêmement subjective, mais quand même, dans un grand nombre de situations, il y a une forme d'objectivité de la beauté, dans le sens où elle est partagée par tous, même si on peut penser qu'elle est conjoncturelle, qu'elle dépend des époques, et puis peut-être même on pourrait dire qu'elle est un leurre. J'aurais assez quand même tendance à penser que dans un paysage de nature, en particulier lorsqu'il paraît plutôt vierge et immaculée, il y a quelque chose qui transcende l'objet et qui renvoie à autre chose, peut-être la même chose devant une toile de maître, comme si au fond on cherchait avec passion ce qu'il y a derrière et il est vrai, peut-être une sorte d'inaccessible qui nous enchante, qui nous touche et peut-être au fond d'ailleurs qui dialogue avec l'intérieur de nous-mêmes, hein, au fond avec notre âme.
Mais pourtant, docteur Dominique de Michel, l'art est un très bon exemple de cette complexité de la beauté, parce que on sait bien que dans les années 60, faire plaquer un accord harmonique sur un piano, c'était un scandale. Il fallait au contraire faire du dissonant et pareil. Un demi-siècle plus tôt pour la peinture, quand Picasso fait Les Demoiselles d'Avignon, ça paraît d'une laideur à l'époque fondamentale. Et pourtant, c'est un tableau qui, aujourd'hui, nous semble plutôt beau, plutôt...
Mais je crois en effet que par rapport à l'expérience de la beauté dans la création humaine ou dans la nature, il y a une forme d'apprentissage. Hein, il y a probablement une beauté qui est universelle, qui est intemporelle et qui probablement touche, peut-être, je pense qu'il faudrait s'en assurer, j'en suis pas d'ailleurs très sûr, mais qui pourrait toucher tous les hommes, toutes les femmes, un peu à toutes les époques. Mais on voit ça par exemple dans l'art pariétal, hein, à Chauvet ou à Lascaux, où il me semble... Cet art qui est quand même extrêmement ancien, 16 000 ou 32, 33 ou 34 000 ans pour Chauvet et 16 000 pour Lascaux, on voit qu'il y a quelque chose de absolument, absolument fascinant. Hein. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose d'universel. Mais vous avez raison, il y a aussi, au fil des modifications du rapport au son pour la musique, du rapport à la couleur ou du rapport à la forme pour la peinture, par exemple, même chose, on pourrait dire, pour l'architecture. Il y a quelque chose qui évolue. Hein. On peut penser que les immeubles extrêmement rectilignes et couverts de verre, par exemple, actuellement, qui nous paraissent plutôt une sorte de beauté minimale et esthétique, peut-être que, voilà, au 19e, on aurait trouvé ça d'une laideur repoussante en disant, mais ça ressemble à une usine ou à un garage, enfin voilà, quelque chose que... Hein.
Alors ça, ce sont les époques qui parfois décident, les modes aussi qui parfois décident, mais... Peut-on, docteur Dominique Michel, trouver justement un archétype de la beauté qui se retrouverait aussi bien dans les peintures de Lascaux que dans une peinture de Braque ou encore dans une peinture de Delacroix? Est-ce qu'il y a quelque chose d'archétypal là-dedans, un noyau qui pourrait nous permettre de nous mettre en tout cas dans la bonne direction d'une certaine définition de la beauté alors?
C'est une vraie question de savoir si au fond la beauté est un archétype. Ça pourrait être, c'est discutable avec quelqu'un, j'en ai discuté il n'y a pas tellement longtemps, et lui il trouvait que c'est pas tout à fait certain qu'on puisse dire quelque chose comme ça. Alors moi je dirais, si la beauté c'est une sorte de contenu vierge et qui est universel, et qu'ensuite il va y avoir des images archétypiques, c'est-à-dire cette beauté va prendre forme de façon variable suivant les époques, suivant les individus, suivant les regards, suivant les oreilles, alors il me semble, et c'est ce que je défends un tout petit peu, que la beauté est archétypique. À ce propos-là, d'ailleurs, on peut se rappeler dans le dialogue, le banquet de Platon, que Diotime, qui est une femme, la seule femme un peu de l'histoire, là, qui s'adresse au jeune Socrate, et elle dit en gros, on aime d'abord un corps, puis tous les beaux corps, puis un esprit, puis tous les beaux esprits, jusqu'à, au fond, contempler l'idée et la beauté. Donc je crois que les idées platoniciennes sont proposées comme une sorte d'idéal philosophique, c'est très très associé à la beauté, mais je pense que cette beauté-là, au fond, que je convoquerai en quelque sorte, elle me paraît beaucoup plus archaïque dans le sens où, même si elle peut avoir une composante en tant qu'image archétypique, très culturelle, très datée, voilà, c'est pas la même chose au XXIe siècle, au XXe, au XIXe, etc. Il y a une sorte de soubassement beaucoup plus ancien qui serait en quelque sorte universel.
Alors, dans le récit d'Héros et Psyché, n'y aurait-il pas quelques indices sur cette beauté, puisque la beauté est décrite comme quelque chose de divin ?
Oui. D'ailleurs, je pense que c'est important de se rappeler que la totalité, j'allais dire, des archétypes ont une double valence. Hein. C'est-à-dire, ils ont une dimension divine, mais au fond, on pourrait dire, ils ont une dimension aussi diabolique. Hein. On va retrouver ça, par exemple, dans l'histoire de Blanche-Neige, puisque ça va être quelque chose autour de la beauté, mais aussi autour de la violence et au fond du mal et de la rivalité, d'une rivalité autour de la beauté. Donc la beauté, elle ne vient pas que apporter de la vie, elle ne vient pas que apporter du bien et du bon, elle peut apporter aussi la violence au sein d'une rivalité. On va voir qu'entre Eros et Psyché, on a vu qu'entre Eros et Psyché, au fond, il y avait aussi cette énigme du fait qu'il y a quelque chose qui se dit là, il y a quelque chose d'une proximité, mais elle se passe dans la nuit, c'est-à-dire là où, au fond, on ne voit rien. Hein. On peut sentir, toucher, respirer, entendre le cœur et peut-être le corps de l'autre, mais au fond, on ne voit rien.
Alors, ces faces sombres de la beauté, quelles sont-elles ? Comment les appréhender ?
Ce qui me semble, c'est que peut-être les premières œuvres d'art ont été en quelque sorte inventées pour conjurer quelque chose de sombre. Si on pense par exemple à l'émergence de la musique, il y a un texte, je ne l'ai plus du tout en tête, mais un texte de Platon d'ailleurs aussi là-dessus, la musique, je pense qu'elle a été faite pour communiquer avec les dieux. Hein. Et communiquer avec les dieux, ça pouvait être fait parce que les dieux, on appelle la bienveillance des dieux, mais on est aussi là aussi pour les charmer et apaiser leur courroux hein, vis-à-vis des hommes. Hein. Tous les grands récits, par exemple, du déluge qu'on voit dans le texte d'Utanapishti, voilà l'épopée de Gilgamesh qu'on voit dans la Bible et qu'on voit dans les récits gréco-romains, on retrouve cette même chose. Donc je crois que dans la beauté, il y a sûrement la nécessité de dire quelque chose de la beauté du monde et il me semble c'est là il faudrait trouver peut-être une réponse à votre question, hein, d'où est-ce que vient cette beauté. Je crois qu'à côté du beau, il y a aussi la face sombre, c'est-à-dire la laideur, la difformité, la disgrâce, l'obscénité. J'aime bien revenir d'ailleurs sur ce mot d'obscénité parce que étymologiquement, ça veut dire ce qui est hors de la scène. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui est caché et qu'on ne doit pas montrer. Donc je crois qu'on a du plaisir devant la beauté, on est plein d'effroi devant la laideur. Hein. On raconte que Socrate était tout à fait absolument horrible et moche, je ne sais pas trop quoi exactement, mais ça venait au fond souligner en quelque sorte la puissance de sa parole. Hein. Donc je pense que c'est vraiment important de penser la beauté aussi avec sa face sombre. La beauté comme la laideur, ce sont les deux faces du monde. Et en nous parlant de la beauté de la reine et de Blanche-Neige, le conte, il nous parle aussi de la face sombre du monde, ici mise en scène dans le rapport de rivalité avec sa composante de violence.
Une face sombre, mais qui n'est pas le contraire de la beauté, parce que la marâtre n'est jamais présentée comme quelqu'un de laid.
Non, Non, elle n'est pas quelqu'un de laid. J'aurais envie de dire que on va y revenir un tout petit peu plus tard, hein, parce que c'est comme si, au fond, chez cette femme, il y avait la beauté, mais qu'il manquait quelque chose. Alors, j'ai pas envie de dire trop tout de suite, mais j'ai envie de proposer aux auditeurs l'idée que, probablement, chez la reine, probablement la première, d'ailleurs, la première reine qui enfante, la deuxième qui va devenir la marâtre, et chez Blanche-Neige, il y a quelque chose qui est en attente. Il y a quelque chose qui est en attente. Et donc, on est dans une confrontation à une beauté qui serait en quelque sorte absolue, mais qui tiendrait en elle-même. C'est-à-dire, au fond, ce qui manquerait, ça serait l'idée de la relation. Et d'ailleurs, ce qui va poser problème, ça n'est pas en soi la beauté de la reine, c'est que cette beauté, elle a l'air d'être complètement absolue, ou elle a l'air d'être complètement narcissique, comme Narcisse se regarde dans le miroir, hein. C'est-à-dire, sa beauté, elle n'est pas dans le cadre d'une relation, elle n'est pas dans le cadre d'un lien. Elle est dans une espèce de position solipsiste, solitaire, isolée.
Alors nous avons abordé les faces sombres de la beauté et puis vous avez lancé le mot, docteur Dominique de Michel, le mal. Décidément, nous attaquons à des concepts assez épineux. Alors le mal, que pouvons-nous en dire et quel rapport avec la beauté?
Je vous propose qu'on va pas essayer de peut-être de définir sur des tas de choses sur le mal. Peut-être quand on reparlera du petit poucet, de l'histoire du petit poucet, on en reparlera plus, parce que là il y a vraiment une figure extrêmement sombre avec la figure de l'ogre qui incarne quelque chose d'une très très grande violence. On en reparlera. Mais son existence, en tout cas, on le sait bien pour nous, à la fois dans le fait que nous le subissons ou que nous le commettons de temps en temps, voilà, ça nous touche. Le mal, il est universel, il est probablement originel chez l'humain, et il me semble être, dans une certaine mesure, le marqueur d'une liberté. Même si on peut penser que dans la grande majorité des cas, commettre le mal, c'est faire une erreur, hein? Voilà, l'erreur, d'ailleurs en latin, ça a donné le mot faillita, qui a donné après le mot faute, hein? Mais j'entendrai le mot faute non pas comme un péché, c'est-à-dire quelque chose qui serait avant tout moralement inacceptable, mais je l'entendrai comme on commet une erreur. Voilà, on a commis une erreur. Donc je crois que les contes vont nous raconter en permanence les effets délétères du mal, et ils vont nous ouvrir aux moyens d'y faire face. Je crois que le mal, comme la beauté, ça nous envoûte tout autant. Et puis, il faut souvent se rappeler, et vraiment l'actualité le dit extrêmement souvent, c'est que quand il y a un drame dans l'actualité, je veux dire, le bourreau, il fascine beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent que la victime, hein. Regardez dans les histoires tragiques, on parle un petit peu de la victime. Et puis, où elle a disparu, où elle est blessée, où elle est morte, je ne sais pas. Et on va parler longtemps du bourreau. Donc, c'est tragique à constater, mais c'est l'autre face, au fond, de tout archétype. Voilà, derrière y a la beauté, il y a aussi la laideur. Et dans ce qui s'agit de ce qui se met en scène de cette beauté-laideur, peut surgir le mal.
Et cette beauté, pour reprendre la phrase de Dostoïevski que vous avez citée un peu plus tôt, serait donc une forme de rempart contre le mal?
C'est-à-dire, je crois au fond que dans toute beauté, il y a une dimension fascinante et au fond tragique. Donc, du côté du tragique, on sait bien, c'est Hegel qui dit ça, que c'est le tragique qui fait l'histoire, hein. Donc là, il va y avoir quelque chose de sombre derrière. Peut-être parce qu'une beauté nous est dans une certaine mesure inaccessible, peut-être parce que dans une certaine mesure, elle peut être aussi éphémère, et puis parce que, en effet, vous avez raison, elle est très souvent associée à un drame. Il y a la beauté tragique du Golgotha, alors peut-être, j'espère que ça ne va pas blesser nos auditeurs, mais voilà, dans ce lieu et dans ce temps du Vendredi Saint, on sent bien qu'il y a un contenu lumineux qui est très fascinant. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est authentiquement beau, mais bien évidemment, on est au cœur de la violence humaine, on est au cœur du tragique. Mais il y a des tas d'autres lieux. Dans les tragédies grecques, il y a pratiquement toujours un drame d'une très grande beauté. Antigone, elle est tragique, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer Antigone autrement que porteuse d'une grande beauté. Je parle évidemment pas d'une beauté plastique de mannequin présentant un défilé de mode, mais d'une beauté intérieure dont on sent bien qu'elle vient nous toucher en profondeur.
Donc ce n'est pas la beauté contre le mal, mais le mal qui serait au cœur de la beauté, ou la beauté qui serait au cœur du mal?
Je dirais, la beauté, comme tous les archétypes, elle comporte deux puissances. Elle comporte une puissance de lien et elle comporte une puissance de rupture. Hein. D'ailleurs, le lien, c'est toujours ça. Le lien, ça relie et ça ligote. Il y a toujours les deux composantes. Donc, je pense qu'on voit bien que dans les contes, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un drame. Si c'est l'histoire d'une reine qui est très belle, d'une fille qui est très belle, d'un roi qui est très beau, d'un prince qui est très beau, et puis voilà, ben, l'histoire, c'est vite fait. On ne va pas en faire un film et on ne va pas convoquer les grands acteurs américains ou français ou autre chose. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, à partir du présupposé qui est la beauté, il va y avoir quelque chose qui se déploie ici. Et ici, c'est la question de la jalousie, c'est la question de la rivalité, et c'est surtout la question d'une beauté qui ne fait pas sens parce qu'elle ne fait pas lien. Alors, peut-être on peut reprendre un petit peu l'histoire d'Antigone rapidement. Antigone, c'est celle qui va choisir quelque chose d'extrêmement pur, hein, puisqu'au fond, elle va choisir la loi du cœur par rapport à la loi des hommes, représentée ici par son oncle Créon. Et elle va dire au fond que la valeur du sentiment, ici du sentiment fraternel hein, vis-à-vis de son frère dont la sépulture est refusée, écrase toutes les autres lois. Et c'est Rilke aussi, le poète, qui affirme « La beauté n'est que le commencement du terrible ». Cette phrase que j'ai dans mon esprit, que j'ai depuis longtemps, pendant très longtemps, je l'ai trouvée étrange, je trouvais que c'était curieux de mélanger un petit peu, voilà. Et je pense que la beauté toute seule, elle est périlleuse. Voilà, c'est pour ça qu'on va y revenir un tout petit peu après, mais la beauté isolée, la beauté toute seule, la beauté incarnée dans une personne, non reliée, c'est quelque chose de terrible. Et rappelez-vous, ceux qui ont écouté les émissions précédentes, Psyché, elle est d'une beauté époustouflante, tellement belle qu'on la prend pour Aphrodite, c'est-à-dire en gros la déesse de la beauté. Voilà. Et pourtant, elle est toute seule, et pourtant, il va y avoir un drame. Hein? Donc cette beauté isolée, elle est tout à fait terrible.
Mais n'est-ce pas l'apanage justement des dieux et des déesses d'être quand même enfermés dans une forme de solitude, même si ils forment des couples, même si ils s'aiment parfois, on les sent toujours plongés dans une profonde solitude. En tout cas, c'est l'intuition que j'en ai.
Oui, je crois que c'est assez juste. On pourrait penser que Zeus, qui court après tout ce qui porte un petit semblant de jupon, en effet, dit quelque chose de sa propre solitude. Je reprendrai en tout cas votre mot de solitude pour le faire entrer en résonance, en tout cas, avec l'idée que la beauté, elle a du sens si elle est reliée, au fond. Hein. Je crois que ça, c'est important. Dans toute œuvre d'art, hein, si on se rappelle que dans la beauté, il y a un grand lien avec l'art. Au fond, l'art, c'est obligatoirement beau. Hein, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en valeur absolue, en tout cas, l'art est censé porter la beauté, que ce soit une pièce de musique, que ce soit une pièce architecturale, une sculpture, une toile ou autre chose. Je crois qu'à l'intérieur, il y a quelque chose toujours d'une présence du sombre, peut-être d'une présence de la mort, on pourrait dire. Et je crois que celui qui n'est pas sensible au tragique de la beauté, enfin du tragique contenu aussi dans la beauté, peut-être risque de rater quelque chose de la double valence des archétypes, c'est-à-dire du mystère, de l'ombre, de l'arrière-plan de la beauté. Et vous vous rappelez hein, que Ève, elle a, en tout cas c'était ma lecture, qui est une lecture parmi beaucoup d'autres, qui était qu'elle avait grandi en transgressant. Elle accède à quelque chose par un espace sombre. Psyché, elle cherche son prince et son masculin intérieur. Blanche-Neige, et elle va le faire au prix d'une épreuve et d'une confrontation avec sa belle-mère, qui est la mère d'Eros, et Aphrodite, et Pour Blanche-Neige, c'est la même chose. Elle va se confronter à une mère jalouse et elle va accéder aussi à un féminin, à un masculin intérieur dans la rencontre avec le fils du roi. Donc je crois que leur beauté existentielle à eux tous, elle leur ouvre un parcours, mais pour que cette beauté se déploie avec justesse, il faut une rencontre, il faut un autre.
Docteur Dominique Desmichel, notre émission touche bientôt à sa fin. Alors, pour conclure, pour tenter de résumer ce que nous avons dit, nous voyons donc une beauté qui n'est pas en concurrence avec la laideur ou qui n'est pas un rempart contre le mal, qui n'est pas opposée au mal, mais une beauté qui contiendrait elle-même une part lumineuse et une part sombre.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et au fond, peut-être ça pourrait être une manière d'introduire au fond la suite, c'est-à-dire... La beauté, pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle tienne ces deux composantes à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire et le jour et la nuit, on va dire, et le solaire et le lunaire, et qu'elle rentre en relation. Hein. Psyché trouve son Eros, Ève trouve son Adam, tous les deux grandissent, Blanche-Neige trouve son prince, c'est-à-dire c'est au cœur de la relation que la beauté se déploie. Et cette relation, on pourrait l'appeler la bonté.
Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine émission. Merci beaucoup, docteur Dominique Desmichel.
Merci, Simon. Au revoir.